Cédric Picard, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, vous êtes secrétaire second degré au SE UNSA 37, c'est bien ça?
Exactement, secrétaire départemental. Et on est donc au SE UNSA, qui est le syndicat des enseignants de l'UNSA. Alors l'UNSA, il y a Union Nationale des Syndicats Autonomes, il y a tout, il y a la police, il y a l'hôpital, etc. On est très 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 large, donc public et privé.
Est-ce que vous voulez nous expliquer aussi où se situe votre syndicat dans la galaxie, disons, des syndicats d'enseignants?
Alors, dans la galaxie des syndicats, j'aime beaucoup le mot, on est un syndicat réformiste. C'est-à-dire qu'on s'oppose quand il y a besoin et on propose souvent, on cherche souvent aussi à faire des compromis afin de faire avancer les choses. Ce qui parfois peut poser problème sur certaines décisions ou parfois on nous amène, par exemple sur le lycée, on nous amène des demandes de réforme du lycée. Bon, le lycée, pour nous, il fallait, oui, réformer quelques petites choses, il y avait des choses à revoir. Donc on soutenait plus ou moins la réforme au départ, on était dans l'expectatif, mais on soutenait. Maintenant d'avoir découvert ce qui on a été fait après et le fait que ça soit plus économique que pédagogique, notamment toutes ces histoires d'options à choisir, qu'en fait on se rend compte à la fin, on essayait de faire un catalogue qui dans le supérieur pouvait poser problème à des gens qui voulaient se réorienter par la suite, après le bac, notamment qu'on n'a pas fait de maths pendant 3 ans et que, parce qu'on a le choix, parce qu'on a le droit, on voudrait se réorienter vers des études supérieures avec notamment un petit peu de maths, un petit peu de physique, s'y remettre après 3 ans d'études sans maths, c'est quand même assez compliqué. Donc nous, oui, la réforme du lycée a été un petit peu complexe à finaliser parce qu'on s'est rendu compte qu'à la fin, c'était plutôt économique que pédagogique. Et je crois que c'est vraiment la conclusion de cette réforme-là qu'on appelait, nous aussi, le fait de réformer un peu le lycée et faire avancer les choses au XXIe siècle.
Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé voir en tant qu'UNSA dans cette réforme et que vous n'avez pas trouvé? Quelle proposition vous aviez pu faire en tant qu'UNSA?
Quelle proposition on avait pu faire? On avait notamment mis en place, essayé en tout cas de discuter avec le ministère pour faire des recherches plus axées sur l'étudiant lui-même, quoi, plus de pédagogie notamment, plus de recherches de pédagogie. Alors, par exemple, le contrôle continu était une des bases sur lesquelles on s'était, pas tout au contrôle continu, mais que le contrôle continu ait beaucoup plus de poids, notamment dans la finalité des études, c'était quelque chose qu'on a soutenu. Après, oui, ça pose des problèmes d'un lycée à l'autre, etc., et c'est moins national, mais que des gens puissent avoir des études avec un suivi plus quotidien, je veux dire, enfin au niveau, au fur et à mesure de l'année, et qu'il n'y ait pas que le bac. Parce que le bac, le jour du bac, si on est fatigué, si on a des problèmes, etc., et qu'on loupe le bac, on loupe le bac. Hein. En fait, voilà, il n'y a rien pour aider derrière, comme tout examen, si c'est pas le jour, c'est pas le jour. Et on trouvait ça quand même très important qu'un tel diplôme, qu'un tel examen, se base pas que sur un mois, juste 2-3 ans d'études derrière. Par exemple, c'est un exemple très 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 concret.
Voilà, donc le contrôle continu, on rappelle que c'est vraiment les notes à l'année, c'est ça hein, c'est le...
Oui, c'est les notes au fur et à mesure de l'année.
Voilà, et donc ça, ce choix-là a été contesté par d'autres syndicats peut-être? Parce que, comme vous le disiez, eux, ils pensaient que c'était injuste, mais pourquoi?
En fait, il y a un certain nombre de syndicats qui pensent aussi que le bac est une sorte d'étape et qu'elle doit avoir un rôle très important dans la vie d'un étudiant, que c'est une sorte de rituel de passage. Nous, on est un peu plus mesurés là-dessus, sur le côté rituel de passage, en fait. C'est un rituel de passage qui peut coûter cher si jamais ça marche pas à quelqu'un pour aller dans le supérieur là où il le veut, quoi. Par exemple, c'est un des points de désaccord. Puis il y en a d'autres, il n'y a pas de problème, mais voilà, pour être très précis et un peu pédagogique, c'est celui-là.
Voilà, et alors, puisqu'on en parle, quels sont les autres points de désaccord qui existent avec les autres syndicats d'enseignants?
En général?
Oui, voilà, si vous voulez, il y en a quelques-uns
en
qui
général.
Viennent.
Bah, par exemple, si moi je suis arrivé au SEUNSA, par exemple, pour être simple, c'est que si certains syndicats s'intéressent beaucoup aux droits des enseignants, par exemple, pour aider, guider les enseignants, ce qui est tout à fait légitime, avec parfois des contestations légitimes, il n'y a aucun problème. Au SEUNSA, on s'intéresse aussi aux devoirs des enseignants vis-à-vis de leur boulot, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de tout ça. Pas que les droits, mais aussi les devoirs. Et moi, c'est principalement pour ça, parce qu'en tant qu'enseignant, c'est aussi ce que j'apprends à mes élèves, globalement. Ben oui, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et c'est forcément quelque chose que je dois appliquer à moi-même, enfin dans ma conception personnelle en tout cas. Mais on a aussi des devoirs envers les parents d'élèves, par exemple, envers... Alors, non pas qu'on est au service des parents d'élèves, à l'État, on aide, on assiste la pédagogie, etc. Il n'y a pas de problème. Je crois que on pourrait par exemple ne pas forcément que contester tout le temps, mais essayer aussi de trouver des compromis et essayer de faire en sorte de respecter le service public. C'est-à-dire qu'on est aussi au service du public et on se doit de faire au mieux avec ce qu'on nous donne, notamment au niveau des budgets qui sont souvent très très serrés, où parfois les collègues sont un petit peu contraints par le budget, par le budgétaire globalement. Mais plutôt que de se contester tout le temps, on se doit aussi d'essayer de trouver le compromis. C'est aussi ça le syndicalisme réformiste, le syndicalisme réformiste. Et donc on se doit d'être plus au service qu'en contestation tout le temps.
D'autres syndicats vous accusent de jouer le jeu des institutions ou alors d'être pas assez syndiqué, peut-être, parce que c'est des reproches que certains autres syndicats peuvent vous faire, peut-être, non?
Oui, tout à fait. C'est des reproches qui peuvent nous être faits, le fait de si on conteste pas, c'est forcément qu'on est d'accord. Ce qui n'est pas vrai, fondamentalement, non. Ce n'est pas parce qu'on ne conteste pas qu'on n'est pas d'accord, mais on peut essayer aussi de trouver des compromis. Et quand il faut contester, bah on conteste. Mais on n'est pas que dans la contestation. On a aussi le devoir d'aider au mieux notre ministère afin de répondre à la mission de service public qui est la nôtre, celle d'enseigner, quoi. Je dirais
Voilà.
même d'éduquer parfois.
Alors, c'est quoi la différence entre enseigner et éduquer?
Enseigner, c'est tout ce qui va être le savoir, c'est tout ce qui va être la façon d'apprendre à apprendre déjà, et toutes ces notions-là. Ah, l'éducation, c'est plutôt le vivre ensemble, tous ces projets de faire en sorte qu'il y ait moins de harcèlement entre élèves, qui commence vraiment à émerger, et c'est très bien que ça émerge, vivre ensemble, tous les projets écologiques aussi. Des collèges qui sont passés avec développement durable, etc. C'est toute une éducation globalement sociale et parfois même sociétale que l'on va essayer de mettre en place.
Alors pourquoi vous appelez toujours éducation nationale et pas enseignement national, par exemple?
Justement parce qu'on est très très souvent... Alors, on ne supplée pas les parents, on va pas les coucher les enfants parfois, mais c'est souvent les boutades qu'on se fait entre nous. Ça, parfois, il y a des enfants qui se couchent tellement tard que oui, si on devait, on nous demanderait d'aller les coucher parce que les parents ne peuvent pas le faire eux-mêmes parce qu'ils laissent les téléphones. Enfin, ça arrive parfois. Mais ça, c'est des boutades et des jeux entre nous. Mais on s'appelle éducation nationale. C'est vrai qu'on devrait faire la distinction, mais souvent, oui, c'est parce qu'on est aussi la base de beaucoup d'éducation au niveau social et sociétal au sein de notre société française. Mais c'est vrai que la dénomination juste éducation nationale peut être interprétée de différentes manières. Je suis tout à fait d'accord.
Et alors pourquoi c'est plus instruction publique?
Pourquoi c'est plus l'instruction publique? Parce qu'on ne fait plus forcément que de l'instruction. C'est-à-dire on ne fait pas que apprendre, moi je suis prof, je sais, et toi tu es élève, donc tu apprends. On est aussi dans, heureusement, au XXIe siècle, plus dans l'apprentissage comme je l'ai dit, du vivre ensemble. Et si en plus on peut mélanger devoir, leçon, et apprentissage, et vivre ensemble, c'est bien les travaux de groupe, par exemple. On fait de plus en plus de travaux de groupe, ou faire en sorte que l'oral devienne prioritaire. Enfin, prioritaire, non, mais plus qu'avant, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a même maintenant au brevet des collèges une épreuve d'oral devant jury où on apprend de plus en plus aux enfants à parler. Avant, on leur apprenait, on leur instruisait, oui, mais on leur apprenait surtout à écrire. Et on se rend compte que des gens, après leur sortie du milieu scolaire, ne savent pas forcément parler devant des gens. Et dans l'apprentissage, notamment du monde du travail, c'est compliqué quand même. Quand on n'a pas l'habitude de parler devant des gens, notamment au niveau des entretiens d'embauche, ça je dis pas le contraire, mais après même quand on dirige des réunions, par exemple.
Mais là, vous axez cette compétence d'oral plutôt vers le monde du travail. Mais...
Ça peut, c'est un exemple.
Voilà. Mais voilà. Donc, vous pensez finalement qu'il y a quand même des choses à prendre dans les réformes du ministère, que tout n'est pas à jeter.
C'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que je dis tout n'est pas à jeter. Il faut juste se méfier parfois que ça ne soit pas juste une bonne raison économique de faire une réforme. Et moi, l'oral, non. Puis, personnellement, je suis toujours enseignant en éducation musicale au collège, donc l'oral, c'est un peu ce que je fais tout le temps. Voilà, donc c'est très important depuis quelques années dans ma carrière, et là, je suis quand même assez content qu'on en trouve au niveau du collège, et même reconnu maintenant au niveau du brevet des collèges.
Alors Cédric Picard, là, la rentrée approche à grands pas maintenant.
Oui.
Alors à votre avis, ça va barder ou pas?
Ça pourrait être compliqué. Ça pourrait être compliqué parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. On sort quand même au mois d'un mois de juin un peu compliqué avec le lycée où il y a eu des appels à la grève de surveillance du bac notamment. Et les vacances sont passées, certes, mais rien n'a changé au niveau de la réforme du lycée pour un certain nombre de choses. Et on n'est toujours pas forcément tous complètement... bien avec ça. Moi, je suis en collège, donc de ce point de vue-là, pour l'instant, ça va. Mais notamment sur l'exemple de la réforme du lycée, puisque, comme je vous le dis, il y a souvent un petit peu d'économie qui a été mise en place. Il est possible que ça continue. Puis après, on va avoir quand même toute la réforme des retraites qui va nous arriver bientôt, pour laquelle il y a des propositions, il y a des contre-propositions qui ont été faites, même au niveau du gouvernement. Mais Emmanuel Macron a récemment fait je ne sais pas si on peut appeler ça un retour en arrière par rapport à l'âge pivot. Donc pour l'instant, on attend, on est dans l'expectatif. Et là encore une fois, est-ce que ça va être une décision de réforme des retraites économiques purement, ou est-ce qu'on va penser au bien des travailleurs, à la pénibilité de certains travail, etc., etc.
Vous voulez nous rappeler pour les enseignants du second degré, quel est l'âge de la retraite?
L'âge de la retraite, c'est variable. Pendant un temps, certains disaient que ça pouvait être très tôt, mais là, de plus en plus, non. J'ai des collègues qui arrivent à 62, 63 ans, devant des classes de 6e et 5e. Parfois, c'est un peu compliqué quand même. Faut tenir... C'est gérer des élèves, et puis faut pas se leurrer non plus. Quand on est prof devant une classe, on est un petit peu en spectacle, on est un peu acteur, et faire un spectacle, ça demande beaucoup d'énergie.
Est-ce que vous pensez que parce que vous parliez de pénibilité, est-ce que le métier de professeur a une certaine pénibilité? Si oui, laquelle?
Alors, il a une certaine pénibilité, oui. Notamment, nous, au SEUNSA, l'avantage qu'on a aussi, nous, c'est qu'on s'occupe, même si moi je suis du second degré, comme vous me l'avez présenté tout à l'heure, mais je m'occupe aussi pas mal du premier degré, c'est-à-dire qu'on n'est pas cloisonné. Et par exemple, il y a pas mal de collègues du premier degré qui, eux, ont des problèmes d'audition, notamment à cause du bruit dans la cour, à cause de, etc., qui, au bout d'un moment, abîment les oreilles. Ça, c'est une chose. Oui, parce qu'en cours, généralement, les cris, on essaye d'éviter, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelque chose qui existe. Puis, le fait qu'on nous dise souvent que, on bosse devant élèves, nous, dans le second degré, quand on est certifié 18 heures, quand on est agrégé 15 heures, etc. Mais c'est que devant élèves, tout ça. Après, tout le reste, c'est que des préparations. Par exemple, on me dit souvent, en tant que musicien, tu fais de la musique, donc c'est toujours la même chose. Pas forcément. Et par exemple, quand j'écoute une chanson à la radio, généralement, je me dis pas « Oh, c'est une jolie chanson », je me dis directement « Est-ce que c'est une chanson que je pourrais exploiter au collège ?» il y a des petits comme ça, des petits rapports avec le professionnel qui restent tout le temps, et qui parfois peuvent être un petit peu contraignants, notamment pour la famille. Parfois on me dit arrête de penser boulot. Ben, c'est vrai, le boulot prend une grosse part. Il y a une certaine pénibilité de ce point de vue-là. Puis il y en a d'autres, notamment quand on bosse un petit peu plus avec, avec des populations, avec du handicap, etc. Il y a beaucoup d'inclusion, je ne dis pas le contraire, mais il y a encore des classes avec, avec des enfants à besoins particuliers qui peuvent demander beaucoup, beaucoup d'énergie notamment, etc., qui peuvent avoir une certaine pénibilité aussi de ce point de vue-là. Maintenant, on n'est pas à sortir par 40 degrés pour faire du bâtiment, hein, je ne dis pas le contraire. Et, mais il y a des contextes un peu physiques comme ça, mais de fatigue surtout. Et puis oui, c'est principalement ça.
Est-ce que le SEINSA 37 appelle à la grève en cette rentrée ?
Pour l'instant, non. On n'a pas d'appel à la grève en ce moment pour, de prévu. On n'a pas forcément de mise en place. Maintenant, il est possible que tout change selon les décisions qui peuvent être prises plus haut, en fait. Mais faire la grève pour faire la grève, on est rarement dans ce contexte-là. D'abord parce qu'elles ne sont pas forcément suivies par tout le monde, parce qu'il y a, il y en a, enfin, souvent ce qu'on nous dit, c'est « Ouais, mais faire la grève, c'est surtout perdre une journée. » Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi important de se mais c'est aussi important de se prononcer sur quelque chose, et c'est un outil, la grève. Donc on n'en fait pas forcément tout, on n'appelle pas forcément tout le temps, mais ça nous arrive quand même, parce que bah oui, c'est embêtant la grève, mais parfois c'est le seul moyen qui nous reste et qui est quand même très fort. Faire la grève, c'est un geste plutôt fort, et que l'on utilise souvent, qu'on contrôle, en fait. Qu'on contrôle de façon à ce que ça soit vraiment à un certain moment et pas assez systématique, oui.
Voilà, donc à l'UNSA, vous faites la grève avec modération.
On fait la grève quand vraiment c'est important et que ça va avoir, normalement, ça va avoir un impact, quelque chose qui va pas revenir un peu au quotidien. Tiens, aujourd'hui, ils sont en grève. Ah bon, encore. Non, quand on est en grève, c'est vraiment quelque chose de très important et d'impactant. Voilà.
Voilà, donc on rappelle juste que vous disiez une journée de grève, c'est une journée de perdu. Hein. On rappelle bien que quand on fait grève, on n'est pas payé.
Ah non. Non, non, non. Quand on fait grève, on n'est pas payé du tout.
Voilà, et ben merci. Merci Cédric Picard.
Bah, donc, merci à vous de m'avoir accueilli sur votre antenne.
Ça, voilà, vous êtes le nouveau secrétaire départemental SEUNSA 37, syndicat enseignant du second degré. Merci à vous.
Pour l'instant. Voilà. Merci à vous.
Et bonne rentrée.
Merci.